Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma. Bonjour Marine. Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors Marine est vraiment ici avec nous. Et aujourd'hui, eh bien, comme la semaine dernière, nous avions une interview. Eh bien, cette semaine, qui est-ce qui s'y colle ? C'est François Ozon et puis Romain Duris. Parce que ce mercredi 5 novembre, eh bien, sort Une Nouvelle Amie, le nouveau film de François Ozon que nous avons pu rencontrer. Et sinon, le sommaire pour toi Marine, c'est quoi ?
Alors moi, je vais vous parler d'un film, le nouveau film en fait de Céline Sciamma, Bande de filles, qu'on avait vu à Cannes cette année.
Et puis toi Manu ?
Eh bien, d'un film d'action, hein, John Wick, avec un revenant pour la troisième fois, puisque c'est le troisième film qui sort avec lui cette année, Keanu Reeves. Mm. Et puis de Mortelle randonnée de Claude Miller dans la section des polars français des années 80.
Et moi, j'aurais pu parler d'un ours ou de plusieurs ours, ceux de Grizzly, oui, et oui, ça sort aussi ce mercredi 5 novembre, parce que c'était aussi en avant-première, j'ai pu le voir. Mais je vous parlerai plutôt d'un ours d'argent, celui du scénario, c'est le film Chemin de Croix de Dietrich Brüggemann, c'est Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
Ça s'en passera aisément.
John Wick de David Leitch et Chad Stahelski. Alors apparemment, super. J'ai regardé, ce sont des cascadeurs, j'en ai vu, puisque c'est leur premier film. Hein. Alors Keanu Reeves est de retour. John Wick, c'est donc le troisième film à sortir cette année, avec l'ex-star déchu sur qui le temps n'a guère d'emprise, en fait. Hein, car en effet, il vieillit plutôt pas mal. Depuis Matrix, déjà 15 ans, hein, il n'a pas beaucoup changé. Et malgré son jeu monolithique, ou peut-être grâce à, il est très crédible en ex-tueur professionnel, reprenant du service par le plus grand des hasards.
Combien ?
Pardon ?
Combien pour ta caisse ?
Elle n'est pas à vendre.
Passez une bonne journée, monsieur.
Daisy ! J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme.
Jonathan, tu avais réussi à sortir de ce milieu. Mais si tu y replonges, ne serait-ce qu'un orteil, tu risques de ne plus jamais en refaire surface.
C'est une affaire personnelle.
Où t'as eu cette caisse ? Qu'est-ce que ça peut foutre ?
C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston. C'est à qui tu l'as fait.
Ce minable !
Ce minable est John Wick.
Alors ce qui frappe en premier lieu hein, dans cette série B quand même friquée, hein, c'est la débilité frontale d'un script tellement idiot qu'il en devient fascinant. Alors pour faire court et en même temps on ne peut guère faire plus long, John Wick raconte l'histoire d'un type qui bute tout son ex-entourage parce que par un pur hasard, le fils de son ancien patron a buté son chien. Dernier cadeau que lui a légué sa femme décédée. Ah. Alors, quand je dis qu'il bute tout le monde, je n'exagère rien. En l'espace d'1h30, le fameux John Wick doit bien zigouiller une centaine de personnes avec l'art et la manière, il faut bien le dire, même si l'usage du gros flingue reste la première arme de destruction massive. Alors, ce film d'action hard-boiled joue la carte de la surenchère avec une totale absence de complexe, sans se préoccuper le moins du monde d'enjeux narratifs. Alors, pour un peu, on trouverait même certains films de Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme hautement complexes à côté de ce trip musclé et bruyant. Alors, une fois qu'on a digéré une trame narrative aussi bourrine que le plus con des jeux vidéo, on peut prendre un certain plaisir à visionner ce film d'action, brillamment filmé et monté. La mise en scène hyper stylisée, tout en couleurs gris-bleu, frôle la perfection en termes de découpage, de gestion d'espace et du temps, et de mouvement de caméra et d'angle choisi. Alors, John Wick parvient à provoquer une certaine euphorie grâce à ses qualités purement esthétiques, magnifiant des scènes de gunfight comme des chorégraphies dansantes. Alors, ce côté un peu abstrait, fascine, et justifie a posteriori l'absence de scénario et surtout l'absurdité quasi surréaliste du propos de départ. Je me suis pas remis de la bande-annonce avec le chien, en fait.
J'ai coupé le moment où il parle à son chien.
Alors ne cherchez aucune trace de réalisme hein, ni de crédibilité. Laissez-vous aller à un spectacle visuel hein, plein de bruit et de fureur sans vous triturer les méninges. Et la violence excessive draine un petit parfum politiquement incorrect qui n'est pas sans charme. Alors un premier film voilà, en forme d'exercice de style, plutôt rigolo mais totalement imbécile.
Sans fond, avec de la forme, beaucoup.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Dans Bande de filles, Céline Sciamma développe une nouvelle fois cette thématique habituelle. L'adolescence, les premiers émois amoureux et la question de la différence vécue au sein d'une société dans laquelle les personnages se doivent de grandir. Alors après la banlieue classe moyenne de Naissance des pieuvres et celle très champêtre de Tomboy, c'est cette fois la banlieue parisienne, La Cité, qui sert de scène à un nouveau récit initiatique. Le titre induit d'ailleurs en erreur parce que c'est plutôt la trajectoire en fait, d'une jeune fille qu'on va suivre. À la fin de son année de troisième, recalée du lycée général, Vic, livrée à elle-même par une mère absente et étouffée par un frère violent, intègre au cours de l'été une bande de filles.
Allez, cassez-vous,
tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme Victoire. Je me suis arrêtée et je vous ai regardé. Vous étiez belle. Je me suis dit que ce moment, il était parfait. Et que je n'oublierai jamais.
Alors, hors de la bande, pour exister en tant que femme, eh bien, peu de choix s'offrent à Vic. Comme les autres filles du quartier, elle doit choisir entre jouer au garçon, devenir une fille facile, une pute, ou se marier pour devenir une fille bien. Entre elles, les filles s'inventent alors une identité différente avec leurs codes, leurs lois, leurs affrontements, pour résister à l'oppression masculine, que ce soit celle des frères, des amants ou des dealers. Le film soulève de nombreuses intéressantes questions. Pour s'affirmer, doit-on exacerber sa propre féminité ? Doit-on au contraire adopter les codes masculins par mimétisme ? Les héroïnes, elles, choisissent plutôt de faire bloc pour résister. Si le film de banlieue est devenu un genre minoritaire, certes, mais à part entière du cinéma français depuis 20 ans, on a pu remarquer tout de même que les personnages féminins y étaient rarement mis en avant, si ce n'est en tant que victimes. Il y avait notamment eu le film La Squale en 2000, qui avait pour héroïne une espèce de guerrière comme ça des temps modernes, mais qui traitait quand même néanmoins en grande partie du phénomène des tournantes. Dans Bande de filles, les personnages sont extrêmement combatifs, tout en incarnant le dilemme et la dichotomie de la féminité moderne. Le casting composé de jeunes comédiennes noires non professionnelles refuse volontairement diversité ou quota et insuffle au film une énergie salvatrice qui l'empêche de se noyer dans le naturalisme du drame social. L'allégorie animale est ici filée tout au long du film. Les filles sont mises en scène comme les différents membres d'une meute, dormant ensemble, partageant chaque événement de la vie, chaque émotion sur un territoire urbain. La mise en scène, comme toujours chez Céline Sciamma, trouve son point d'équilibre entre onirisme et réalisme. On n'a jamais filmé la banlieue de façon aussi esthétique et délicate. Et choisir d'accompagner ces images très urbaines de musique électro plutôt que d'opter pour une bande-son hip-hop ajoute d'ailleurs à l'originalité du parti pris esthétique. A noter que, eh bien, comme pour ses précédents films, la bande-son est gérée par Parawan, qui était d'ailleurs comme la réalisatrice étudiant à la FEMIS, oui, qui fait maintenant de l'électro pour ceux qui connaissent. Alors, le scénario aurait sans doute gagné à être un petit peu plus condensé, hein, afin que le film conserve sa vivacité et qu'il soit épuré de quelques scènes, mais ça demeure quand même dans l'ensemble une très belle réussite.
Et Bande de filles est donc toujours sur les écrans. Et maintenant, nous allons parler d'un film qui sort ce mercredi 5 novembre.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Et aujourd'hui, ce sont deux invités que vous allez pouvoir entendre dans cette émission. Romain Duris, ça c'est l'acteur, et puis eh bien, le réalisateur, c'est François Ozon. C'est pour le nouveau film de François Ozon, Une nouvelle amie, avec aussi Anaïs Desmoustiers et Raphaël Personnaz hein, pour compléter le casting. Alors c'est l'histoire de Laura et Claire qui sont des amies d'enfance. L'une meurt, l'autre promet qu'elle s'occupera de son enfant et de son mari. Le drame laisse la place à un conte de fées moderne. Son mari, alors, c'est David, Romain Duris. Son truc, lui, c'est le travestissement en femme. La mort de son épouse a révélé cette tendance. Il veut s'affirmer en femme. Alors Claire, dépressive, eh bien, va trouver en lui, en elle aussi, le moyen de reprendre goût à la vie et de renouer avec sa féminité. C'est un film doux, avec des couleurs automnales, tourné dans une banlieue cossue au Canada. C'est dans un milieu bourgeois, ça nous entoure, nous spectateurs. On va écouter d'abord ce qu'en dit François Ozon et puis Romain Duris, et puis on en parle après.
Laura était ma meilleure amie. Je serai là toute ma vie. Pour veiller sur ta fille Lucie. Et sur son père David.
En fait, je t'ai pas dit, j'ai eu David.
David.
Ouais, comme tu l'appelais pas, je l'ai fait.
Ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment cet homme avait envie de devenir femme et comment cette femme aussi avait envie de devenir femme. Parce que les deux, tous les deux, ont un trajet vers la féminité. Parce que le personnage de Claire aussi, même si elle est née femme, sa féminité est un peu... est pas vraiment épanouie. Et c'est au contact de Virginia, après la mort de son amie, qu'elle va aussi s'épanouir. Donc c'est deux trajets parallèles. À partir d'une histoire d'amour. Au départ, ce film s'est adapté d'une nouvelle de Ruth Rendell que j'ai lue il y a une vingtaine d'années, que j'ai voulu adapter à l'époque et j'ai pas trouvé l'argent ni le comédien. Donc j'avais abandonné. La nouvelle est très différente puisqu'elle se termine par un meurtre et puisque Claire tue Virginia. Et cette fin me gênait, donc je pense que c'est aussi en partie pour ça que je l'avais pas adapté à l'époque. Et ça m'a mis du temps pour savoir ce que je voulais raconter, comment je voulais utiliser cette idée de travestissement. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je voulais raconter, c'était une histoire d'amour. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le scénario, il se trouve qu'il y a eu les manifs contre le mariage gay, contre l'égalité des droits, et donc forcément, je me suis dit, je vais tomber dans l'actualité. Et donc, c'est poser la question de comment raconter cette histoire et comment faire en sorte que des gens qui sont extrêmement violents, qui sont dans l'ignorance, qui sont dans une certaine intolérance, puissent aussi rentrer dans cette histoire. Parce que je ne voulais pas m'adresser à des gens qui sont déjà convaincus ou à une niche de spectateurs. L'idée, c'était de toucher un public large qui peut être loin de ce que raconte le film. Faire un film universel et qui parle finalement de liberté et d'émancipation. Le travestissement, finalement, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment sortir, comment s'émanciper de sa condition qu'on nous a donnée à la naissance, ou de la culture, ou de l'éducation qu'on nous a donnée, comment trouver sa place finalement dans la société, sa propre identité, qui ne correspond peut-être pas forcément à ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on habille les petits garçons en bleu, les petites filles en rose, et des fois, il y a des petits garçons qui ont envie de jouer à la poupée, des petites filles qui veulent faire de la boxe, voilà.
Un chou-fleur.
Tu es une ombre ?
T'aimes pas ?
Mais si, mais ça fait longtemps.
On sort, je fais un effort.
Ça me fait du bien de prendre un peu de temps pour moi.
Et le cliché, c'est de penser que les gens qui se travestissent sont homosexuels. Voilà. Dans beaucoup des cas, alors je ne vais pas dire 100%, mais dans beaucoup des cas, ces personnes, ces cross-dressers ou transgenres sont hétérosexuels, sont mariés, ont une femme, des enfants. Et ça, c'est un truc compliqué à faire comprendre aux gens, parce que le cliché, c'est de se dire « travelo homo ». Voilà, ce que dit à un moment le personnage aussi.
Elle est charmante, non ?
Elle a une très jolie robe, c'est vrai.
À quoi, Vizier ?
T'as été lourd avec la serveuse. David vient de perdre sa femme, toi tu pousses à draguer cette...
Oh, de toute façon, j'ai bien vu que ça l'intéressait pas.
J'avais lu une interview dans laquelle Romain disait qu'un de ses rêves, c'était de jouer le rôle d'une femme. Donc je l'ai appelé, on a fait des essais, et tout de suite, j'ai senti dans son regard, dans sa manière de faire, déjà un désir très fort, parce que je crois que Romain, enfin bon, tu vas en parler, c'est un acteur qui aime composer, qui aime créer des personnages. Donc là, c'est un peu l'apothéose du travail d'acteur, de jouer avec des artifices. Et puis, je l'avais vu dans le film de Christophe Honoré, 17 fois Cécile Cassard, où il chante une chanson de Demi, Lola, en petite tenue. Et déjà, il y avait dans ses gestes, on sentait une aisance, un corps de danseur, voilà, et puis des gestes féminins. Et puis, il n'a pas peur de sa féminité. Et moi, je pense que les grands acteurs sont ceux qui assument leur féminité. Et ce que j'aimais aussi dans les essais qu'on a fait avec Romain, c'est qu'il y avait quelque chose de ludique, d'enfantin. Moi, je voulais éviter le côté un peu glauque ou dramatisant. Je voulais quelque chose de l'enfance. qu'on sente du plaisir, comme un déguisement, comme on s'amuse. Et Romain avait ça.
En tout cas, j'ai pas cherché à faire comme d'autres acteurs qui auraient déjà fait le même exercice. J'ai vu les documentaires dont parlait François, Crossdresser de Chantal Poupeau, sur des hommes qui font ça, leur rituel, comment est-ce qu'ils se cachent, est-ce qu'ils ont des familles. Enfin, c'est très intéressant de rentrer dans leur quotidien. Et puis un documentaire qui s'appelait Bambi aussi. Donc ça, c'était
Sébastien
pour
Lifshitz.
Sébastien Lifshitz, ouais. Ça, c'était pour prendre des, voilà, de la vérité, quoi. Et ensuite, ensuite, il y avait tout un travail physique. Et ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer d'écouter une féminité qu'on a tous, à mon avis, en soi. Peut-être les acteurs l'utilisent peut-être davantage. Et ça, en mêlant un travail physique un peu laborieux, de devoir marcher en talons. Et ça, c'est des heures et des heures de, voilà, pour oublier qu'on est en talons. Et voilà. Mais vraiment, le déclic, c'est à l'intérieur. Il y a un truc qui est... Il y a clairement des... Moi, je pense que j'ai des émotions féminines. Enfin, je les sens féminines.
En fait, j'adore ton rouge à lèvres. Ça te va très bien.
Surtout, j'étais rassuré aussi de l'œil de François. On était assez d'accord sur le degré de ne pas faire trop de manières. Parfois, il y a de la maladresse et ça peut être drôle, mais pas tomber dans la facilité ou dans le gag. Et donc, c'était très agréable à doser, quoi. Et après, oui, bah, moi, porter des talons, ça m'éclate.
J'ai besoin de te revoir.
Tu couches avec David, c'est ça?
Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour madame.
Il y avait une volonté de stylisation, d'aller vers le conte. D'avoir cette portée plus universelle, dépasser le cas particulier pour raconter vraiment une histoire d'amour qui est différente. Mais oui, il y avait vraiment cette volonté. J'avais envie de montrer que ces deux personnages se font du bien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, elles prennent du plaisir toutes les deux à s'habiller, il y a quelque chose de ludique, quelque chose d'enfantin, quoi. Elle lui met la perruque, elle coiffe avec la brosse un peu trop, la perruque tombe. Bon, c'est des gestes qui font juste rire. Elles prennent du plaisir et elles oublient tout d'un coup ce deuil et elles se font du bien l'une à l'autre. C'était ça l'idée. Mais Claire, en plus, est une jeune femme. Quand on voit au début, dans le flashback avec son amie d'enfance, on sent qu'elle est dans l'ombre de Laura. Laura, c'est la blonde, éclatante, celle qui séduit les garçons. Elle suit, elle est dans son ombre. Et finalement, son épanouissement va se faire non pas avec Laura, mais avec Virginia.
Ne dis rien à personne, que ça reste entre nous.
Je sais pas.
T'as rencontré quelqu'un?
Une femme, très douce. Elle me comprend, sans me juger.
T'es malade, David.
Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi.
Ça pourra pas durer, David. C'est une folie.
Je sais.
T'es un pervers. Il faut arrêter.
Voilà, la bande-annonce qui laisse planer le doute. Alors, non seulement dans cette bande-annonce, on ne voit pas la transformation de Romain Duris, on ne le voit pas en femme, on le voit juste un peu légèrement démaquillé. Et puis, ça laisse planer le doute. Alors, François Ozon, là, nous parle d'un conte, mais il y a un moment où on pourrait basculer vers un thriller. Mais on ne le fait pas, Marine.
Oui, c'est vrai qu'il aime bien comme ça tester des nouveaux genres en fait à chaque film. Mais là, pour le coup, il a fait un espèce de mélange assez réussi, je trouve, c'est-à-dire entre le conte de fées et le thriller hitchcockien, très classique comme ça des années 50, avec de très belles maisons, des très belles tenues, des femmes très classes et mystérieuses, voire inquiétantes. Mmh. Et alors. Le pitch de départ aurait quand même pu donner lieu à une comédie française bien lourde. Heureusement, ce n'est pas du tout le cas parce que quand même, c'est Ozon. Et c'est plutôt en fait une belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour vraiment qui sort des sentiers battus. Le questionnement autour des genres masculin-féminin est, à mon sens, un peu outré. C'est pas toujours très subtil. Mais bon, c'est quand même assez réussi. Après, malheureusement, on juge un cinéaste aussi par rapport à l'ensemble de sa filmographie. Et c'est vrai que quand on sait certains excellents films en fait, que Ozon a fait avant, celui-là est peut-être un petit peu en dessous, à mon goût.
Il sort donc aujourd'hui, Une nouvelle amie, ce mercredi 5 novembre.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Maintenant, parlons de Chemin de croix de Dietrich Brüggemann, ours d'argent du scénario. Alors, c'est un film aux apparences austères. Il y a 14 plans séquences et 3 mouvements de caméra. 4 si l'on compte un trajet en voiture avec la caméra posée sur le capot. Voilà. Donc c'est maigre, hein, vu les possibilités qu'offrent les techniques de prise de vue, surtout en 2014. C'est un sujet qui peut aussi paraître austère. Il s'agit de l'histoire d'une adolescente élevée dans une famille intégriste qui va revivre les 14 stations du chemin de croix de Jésus quand il fut emmené au Golgotha. Autant dire le martyr. Alors c'est évidemment une interprétation. Chaque plan séquence est séparé par un noir et chaque nouvelle séquence est nommée du nom du chemin de croix. Alors on va de Jésus est condamné à être crucifié à le corps de Jésus est mis au tombeau en passant par un plus méconnu, je crois, hein, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Si vous n'avez aucune culture religieuse, vous apprendrez tout cela. Si vous avez une culture religieuse, eh bien vous serez aussi confronté à un discours ultra-fondamentaliste. La première séquence est savoureuse. Nous assistons à une séance de catéchisme. On a là un prêtre assis à une table avec quelques enfants. Il revoit les principes de base de la communion, parle de la vraie foi, et comme Satan est partout, il évoque les tentations sataniques. Alors, il y a bien des questions, mais elles viennent du prêtre, hein. Les enfants se bornent à répondre, plus ou moins juste, mais souvent juste, puisque le catéchisme a quand même bien fait son œuvre. Et la seule question qui viendra sera de la tourmentée et frêle Anna, à l'écart des autres. Elle demandera à son prêtre pourquoi la maladie de son jeune frère. Quelle est la part de Dieu dans tout ça? Eh bien évidemment, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors c'est Anna qui intéresse le réalisateur, son calvaire, son entourage, une fille au père qu'elle aime, une mère qui la voit plus grande qu'elle ne l'est, un père présent mais quasi mutique, et puis une vague tentation, un camarade de classe. Alors à l'image du chemin de croix, tout semble une épreuve à cette jeune fille quasi anorexique, à qui on a martelé que le diable pouvait se loger partout, et en voici un exemple. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb. Et voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un morceau de 1989, ça s'appelle The Look. C'est un groupe suédois qui avait fait... Non, le morceau s'appelle The Look et le groupe s'appelle Roxette.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, hein.
Mais oui, je m'en rappelle bien.
Que de souvenirs. Donc, musique ô combien satanique, censée stimuler le cours de sport, mais qui pose problème à Anna. Alors, il y a d'autres exemples, hein, comme ceci, où le discours paraît tellement fort qu'on peut lâcher un petit sourire de temps en temps. Chemin de croix n'est pas aussi austère que cela, finalement. Alors, d'une certaine manière, le discours qui vient du prêtre ou de la mère obnubilée par la vérité et la pureté, hein, selon votre foi ou votre caractère religieux, vous paraîtra risible, consternant, exagéré, ou allons-y, exemplaire, si vous êtes forcément adepte de, eh bien de ce discours. Alors, le réalisateur se garde bien de ridiculiser ses personnages. Bien sûr, il traque les excès, les dialogues sont précis, le discours religieux nous apparaît quasi irréel, radical, mais évidemment vraisemblable. Le réalisateur s'est retrouvé dans sa jeunesse pendant 2 ans à suivre l'enseignement religieux d'une paroisse intégriste. Et ce film a été coécrit avec sa sœur qui a subi le même sort. Alors, dans leur cas, c'était leur père qui les a conduits à la dureté. Et dans ce scénario, eh bien, ils ont été très attentifs à donner une épaisseur à la mère, car c'est elle qui impose la rigueur religieuse à toute la famille. C'est elle qui pousse sa fille à aller encore plus intensément vers l'amour de Dieu. Selon le réalisateur, la forme qu'il a donnée à son film, avec ses plans séquences et ses cadres rigides, permet une liberté au spectateur, qui n'est donc pas plus enfermé, en tout cas dans une vision fragmentée. Et il le résume ainsi, tout est dans le cadre, il n'y a rien en dehors, de la même manière que pour Maria, il n'y a rien en dehors de sa famille. Alors on peut toujours considérer qu'il y a un regard, vu qu'il y a un cadre et un hors-champ, mais effectivement ce hors-champ ici nous échappera toujours, sauf à 3 reprises donc, où la caméra soit panote, soit fait un travelling. Alors il se dit inspiré par le réalisateur Roy Anderson, réalisateur qui faisait dans la comédie je crois, enfin réalisateur suédois aussi, comme Roxette.
Suédois, oui.
Ouais, décidément, hein, il a
pris, un peu dans la lignée des films de Tati, ce qu'il faisait, j'ai vu un film il y a quelques années de lui.
Alors là, effectivement, ça s'en sépare énormément parce qu'il n'y a pas énormément de comédie quand même dans Chemin de croix. Et il se dit inspiré aussi par Michael Haneke, mais à qui il reproche de ne pas mettre d'humour dans ses films. C'est vrai que l'humour chez Haneke est vraiment un sujet de thèse qui faudrait...
Quoique, Funny Games, moi je me suis marré parfois.
Oui, Funny Games, peut-être.
Funny Games.
Alors effectivement, on peut le rapprocher de, peut-être d'un Ruban Blanc, enfin parce que ça prenait aussi cette thématique de la religion qui oppresse, mais ça n'a rien à voir formellement pour moi qui apprécie énormément Haneke d'ailleurs. Enfin, je vois toutes les différences qu'il peut y avoir. En tout cas, j'ai été complètement surpris par ce film Chemin de croix de Dietrich Brüggemann. Voilà, vous pouvez tenter de le voir. Like a man, hit it like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, et vous avez aussi, bien en bonus, une petite musique pour aujourd'hui, une musique qui va vous rester dans la tête.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, un an après le formidable Garde à vue, hein, thriller psychologique en huis clos dialogué par Michel Audiard, Claude Miller retrouve Michel Serrault pour un autre film du genre, mais dans une veine plus onirique, peut-être moins mécanique, portée par un souffle romanesque qui a déconcerté le public et la critique à sa sortie. C'est Mortelle randonnée, que vous avez peut-être vu.
Il y a très longtemps.
Il y a très longtemps, oui. Mais c'est un film de 1983.
Hein. Voilà, on le dit.
Voilà, je le dis. Alors, Mortelle randonnée est l'adaptation d'un roman noir de Marc Baum, qui fut également scénariste de films très différents, comme Le Retour du Docteur Mabuse ou Charade. Alors, le scénario est à nouveau signé Michel Audiard, qui s'adjoint là les services aussi de son fils Jacques, qui deviendra donc le réalisateur que tout le monde ou presque connaît aujourd'hui. L'histoire en elle-même est très simple, hein, très linéaire, mais fascine d'emblée. Hein. Beauvoir, surnommé l'œil par la pègre, travaille dans une agence de détective. Alors un peu déchu par la vie, un peu déprimé, depuis que sa femme l'a quitté avec sa fille, il survit, tel un spectre au milieu des vivants. Lors d'une enquête, il croise la route de Catherine Léris, une jeune femme très désirable, mais instable, qui assassine et dévalise des hommes fortunés. Alors plutôt que de la dénoncer, l'œil décide de la protéger et il va la suivre dans son périple meurtrier. Un peu comme si c'était sa fille. Alors on écoute un extrait de la BO signé Carla Bley, qui est à mon sens assez formidable et soutient très très bien le film. Alors d'entrée, la voix off, hein, tragique ironique de Michel Serrault, nous invite à un voyage vénéneux au pays de la mort. Hein. Mortelle randonnée est une sorte de conte noir sur le destin d'une serial killeuse mélancolique. Un film au fond plus touchant que terrifiant qui s'affranchit de tout pathos et morale. Miller filme deux êtres perdus, seuls au monde, qu'un concours de circonstances va rapprocher. Alors l'œil retrouve sa petite fille dans les traits de la tueuse, hein, qui n'a rien d'une femme fatale. On dirait plutôt une poupée marquée par un destin tragique. Et le choix de confier le rôle à Isabelle Adjani est fort judicieux. Son visage un peu arrondi, enfantin, sied magistralement au rôle. En face, Michel Serrault est tout simplement génial. L'un de ses plus grands rôles. Il y a une osmose parfaite entre le cabotinage et un jeu quand même plus sobre que d'habitude. Et l'audace de Claude Miller est aussi d'oser faire parler Michel Serrault face à la caméra à plusieurs reprises. Hein. On peut voir ça comme quelque chose d'un peu surfait, qu'on a évidemment déjà vu dans des films comme À bout de souffle. Mais ça dégage un charme particulier au film. Hein. Il y a une sorte de distanciation, il y a un effet assez déroutant.
Une transgression en tout cas, hein, pour le coup.
Et Claude Miller use aussi intelligemment des codes publicitaires de l'époque, tant au niveau de la composition des images que de l'univers très glamour mis en avant pendant une partie du film. Le fait qu'Isabelle Adjani, tel un mannequin pour une pub de parfum, change de coiffure, de style de vêtements au gré de ses exploits meurtriers, participe à cet aspect esthétisant qui fut très mal compris à son époque. D'autant que plus le récit avance, plus l'ambiance se fait sombre et réaliste, jusqu'à nous ramener vers des origines prolétariennes de cette veuve noire de plus en plus vulnérable. Alors la mise en scène tente de retrouver une sorte de lyrisme, on va dire poétique, qui habite des grands films comme Vertigo. La lumière de Pierre Lhomme capte magnifiquement le visage d'Adjani et les éclairages colorés tempèrent la noirceur du récit. Enfin voilà, je trouve que c'est un très très beau film noir. Il y a des seconds rôles aussi plutôt rigolos, assez étonnants, dont un Guy Marchand et Stéphane Audran totalement surprenants. Voilà, je conseille vraiment de revoir ce film qui a été un gros échec à sa sortie et qui est devenu... pas culte, mais qui a pris, à mon avis, une aura au fur et à mesure des années.
Mmh. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait, se retaper toute la filmographie de Claude Biller. Enfin,
Presque. Je
considère que c'est un très, très grand réalisateur et peut-être...
Oui, non, mais Garde à vue, La meilleure façon de marcher et des films comme ça. Et Dites-lui que je l'aime, qui est aussi un film noir superbe des années 70 avec...
Noël approche, pensez au coffret DVD.
Avec Depardieu, pas Guillaume.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Aujourd'hui, vous avez pu entendre François Ozon et Romain Duris. C'est pas dans n'importe quelle émission que vous pouvez le faire. Et la semaine prochaine, bien, ce sera Mélanie Laurent dans cette émission Cinérama.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.